Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les Français seraient-ils devenus addicts à leurs écrans? En croire les statistiques, avec plus de 5 heures par jour pour les adultes, nous serions dans le peloton de tête européen. 2 heures de plus en tout cas qu'il y a 10 ans. Le smartphone à lui seul nous prendrait plus d'une heure et demie. Et si nous relevions la tête de nos écrans pour flâner bien sûr, nous envisager, admirer la beauté de la création, mais aussi pour lire et pourquoi pas même, tenez-vous bien, pour aller en cours. Si, si, vous avez bien entendu, aller en cours, et ce, quel que soit notre âge. Université du temps libre, le savoir pour tous, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau pour nous en parler en ce vendredi, Daniel Rochefort, vous êtes responsable de l'université du temps libre de l'université Jean Jaurès, bonjour.
Bonjour.
Florence Boucher, vous êtes professeure de lettres dans cette même université Jean Jaurès et coordinatrice du comité de pilotage de l'université du temps libre, bonjour.
Bonjour.
Marie-Thérèse Tamagnan, vous êtes, on appelle ça auditrice, voilà, étudiante on va dire retraitée, bonjour.
Bonjour.
Et Régine Laplace, vous êtes également auditrice de cette même université du temps libre, UTL, comme on dit. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue au micro de Vivante Église pour cette émission. On va partir donc à la découverte de ces universités du temps libre. Voilà, ce sont des réalités qui se développent donc de plus en plus en France. De plus en plus de gens suivent ces cours, qui ne sont pas forcément des cours à distance, loin s'en faut, on va découvrir. On va commencer avec vous, Daniel Rochefort. Dites-nous, l'Université du temps libre de Toulouse, j'ai cru comprendre que ça tombait bien. Vous faisiez partie des pionniers, des premiers lieux où s'étaient lancées ces universités du temps libre, sous l'impulsion en 1973 d'un certain Pierre Vélas. Racontez-nous un peu cette université.
Oui, alors l'université du temps libre a une existence de plus de 40 ans en fait. Elle a été impulsée par justement cet enseignant qui avait envie de répondre en fait aux besoins de la population, qui avait envie d'avoir accès au savoir universitaire. Donc c'est une de nos fonctions en fait à l'université du temps libre, nous vulgarisons le savoir universitaire pour le grand public.
Alors ça a fait des petits, hein, puisque après l'université de Toulouse, il y en a eu d'autres. J'ai vu 1975 Strasbourg, 76 Rennes, Orléans, Annecy 78. Aujourd'hui donc il y en aurait 45 si j'ai bien compris. Alors on peut aussi préciser qu'en fait ça... Il y a différentes réalités. Il y a les universités du temps libre et puis il y a aussi les universités du troisième âge ou de tout âge. C'est un peu un vaste panorama. Est-ce que vous avez un peu en tête, à gros traits, on va dire, les différentes maisons qui peuvent exister dans ces différentes universités ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a des universités du temps libre qui sont, comme la nôtre, rattachées à une université. Donc nous sommes vraiment une sous-structure de l'université Jean Jaurès, on y a sa vitrine en fait. Il y a des universités en fait qui sont de type associatif, donc qui sont notamment par exemple, si on prend le cas de ACAOR, de l'université du temps libéré, qui est une petite association. Et vous avez aussi, comme le cas, il me semble, à Strasbourg, qui eux en sont à moitié associatifs et à moitié universitaires.
En tout cas, donc ça fait du monde, ça ferait près de 45 établissements en France d'une manière ou d'une autre, 250 antennes réparties un peu partout en France. Est-ce que la France est, je sais pas, il y a d'autres pays comme ça en Europe où on a plaisir à étudier, quel que soit l'âge de la vie? Est-ce que ça s'est développé partout? Vous le savez ça ou pas?
Oui, tout à fait. Il y a une grande antenne au Canada, mais aussi en Europe. Vous pouvez en trouver en Angleterre, comme aussi en Allemagne. Il y a des projets aussi en Croatie de développement.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'introduction. L'idée, c'est que c'est pas faire une introduction sociologique extrêmement précise, mais c'est vrai qu'on peut se demander, pour vous faire un petit coup de pub, ce qu'on fait de notre temps libre et de nos divertissements. Je me suis plongé dans une chronique dans le journal Le Monde d'un philosophe, Thomas Schroeder, qui a rappelé que, on va dire, les loisirs, même chez les Grecs, même chez les anciens, c'était en dehors, tout ce qui existait en dehors des activités biologiques. musique, du temps de travail, et que, bref, les loisirs ne datent pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se demande ce qu'on fait un petit peu de ce temps. On peut avoir l'impression d'être un peu dans une société du divertissement. Florence Boucher, vous qui êtes enseignante en lettres, qu'est-ce que vous pensez de cette pique en introduction ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu trop, selon votre goût comme professeur, dans la société du divertissement ? Il faudrait penser à des choses plus sérieuses.
Eh bien, le divertissement a aussi sa raison d'être, mais effectivement, ce que l'on propose à l'UTL, c'est d'utiliser ce temps libre d'une manière peut-être plus épanouissante, enrichissante pour l'esprit, pour l'intellect. Et vous faisiez allusion aux anciens. On revient finalement à ce que les latins appelaient otium. Otium, en latin, c'est le loisir studieux. Donc peut-être que le temps libre qui vient au moment de la retraite ou un tout petit peu avant, c'est aussi le temps de la sagesse. Et en tout cas, on espère contribuer à développer cette dimension.
Alors, quelle publicité vous avez fait à Marie-Thérèse Tamagnon et Régine Laplace, hein. Ce sont des sages, en tout cas, on découvrira un petit peu leur parcours. J'ai cru comprendre aussi que les universités du temps libre, ça avait été pensé au début, donc particulièrement pour ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième âge. Alors, pardon mesdames, c'est un peu des classifications un peu raides, mais que c'était aussi une manière d'accompagner cet âge de la vie qui se développer de plus en plus dans nos pays. Est-ce que ça aussi, c'est un peu le rôle de l'université du temps libre ? Je me tourne vers vous, Daniel Rochefort.
Oui, tout à fait. Mais en fait, je dirais que depuis une dizaine d'années, le profil des universités du temps libre est en train de changer parce que nous accueillons aussi bien des étudiants que des personnes actives ou des personnes qui sont en congé pour longue maladie. Des retraités qui sont
des retraités qui ont du temps et qui ne sont pas les seuls à venir. En tout cas, est-ce que ça a été pensé comme ça au début, vous savez, ou pas l'une ou l'autre ?
Ça a été pensé dans le sens où, oui, effectivement, il y avait des personnes qui avaient une soif de se cultiver et en fait, qui avaient vraiment besoin de passer du temps à pouvoir suivre des disciplines d'enseignement qu'ils n'ont pas pu suivre en temps ordinaire.
J'ai cru comprendre qu'il y a parfois dans certaines universités du temps libre, est-ce que c'est le cas chez vous ? Il y avait même d'autres propositions, hormis les cours, des propositions culturelles, sportives, comme une vie associative qui se développe comme pour n'importe quel campus. Non, vous me faites nom de la tête, donc c'est pas comme ça chez vous.
Pas des cours, mais tout de même des ateliers, je crois qu'une de nos invitrices en a suivi, ou même les deux d'ailleurs, des ateliers donc plus manuels, vous voyez.
D'accord.
On a des ateliers de technique picturale, par exemple du 17e, ou des ateliers héraldiques, ou des ateliers de d'épigraphie,
de calligraphie.
Donc voilà.
Alors maintenant, plongeons-nous dans les cours. En tout cas, l'Université Jean Jaurès donc à Toulouse, c'est donc une université de sciences humaines. Donc c'est essentiellement des cours autour de ces matières. Alors Dieu sait si c'est riche quand on se plonge. Hein, je vais en citer quelques-unes, puis je vais vous laisser peut-être présenter. Il y a quelques grandes portes d'entrée, histoire de l'art, archéologie, lettres, philosophie, cinéma, langue. On peut étudier donc la vie quotidienne en Égypte ancienne. On peut étudier donc le cinéma, je viens de le dire. On peut étudier Soulages, le peintre Soulages. Soulages a 100 ans, il y a un cours sur ce sujet. Relire Camus. Comment vous nous présenteriez un peu le panel des propositions, Daniel Rochefort ?
En fait, on essaye de faire une petite enquête auprès de nos auditeurs et on essaye de se caler par rapport à l'actualité aussi bien culturelle en France, mais aussi en Europe. Et donc, on essaye de leur proposer des sujets qui sont susceptibles de les intéresser.
Alors, d'où Soulages à 100 ans, oui, pardon, vous vouliez
Florence Boucher. D'une part, nous essayons de satisfaire, dans la mesure de nos forces pédagogiques, les sujets souhaités par les auditeurs. Mais je me réserve toujours aussi une part de surprise, c'est-à-dire que moi aussi et mes collègues, nous avons envie de faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices, des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé par eux-mêmes. Donc on essaie d'équilibrer la programmation comme ça.
Alors est-ce que vous pouvez présenter quand même les grandes matières ? l'une ou l'autre, Florence Boucher. Donc, histoire de l'art et archéologie, c'est un premier grand bloc.
Oui, et ça représente beaucoup de collègues. Ça va de la préhistoire à nos jours, aussi bien...
Les vikings, du mythe à la réalité.
Exactement. Il y a vraiment tous les possibles historiques dans toutes les zones du monde. Hein. C'est bien sûr pas du tout centré uniquement sur l'histoire de France, par exemple.
Voilà, sculpture gothique à la fin du Moyen-Âge, les femmes dans l'art. Donc il y a un autre grand bloc, c'est langue, littérature, civilisation étrangère. Là aussi, je sais pas, pourriez nous citer
Beaucoup de cycles sur les littératures étrangères en langue anglaise ou américaine ou espagnole, mais aussi, bon, moi je suis enseignante en littérature française, donc il y a un certain nombre de cycles concernant la littérature française, dans une perspective aussi comparatiste, enfin, il y a beaucoup de choses.
Voilà, bref, il faut se plonger dedans, lettres, littérature, je l'ai déjà dit, donc philosophie, cinéma, géographie, aménagement, environnement, géopolitique. Avant qu'on fasse une première pause et puis qu'on vous retrouve, Florence Boucher, pardon, pour avoir un exemple avec... vous allez mettre un coup de focus donc, sur un de vos cours qui s'appelle « Increvable Moyen-Âge ». Quid des modalités pratiques, Daniel Rochefort, est-ce que ça coûte cher? Comment faut-il avoir un budget particulièrement important? Comment on s'y prend?
Alors, en fait, il suffit de s'inscrire à l'UTL. Donc, vous pouvez le faire soit par voie postale, soit en présentiel dans nos locaux, au 56 rue du Thor à Toulouse. Il y a des frais d'adhésion qui sont pour l'année universitaire en cours, qui sont de 18 euros. Et ensuite, vous avez plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Donc, aussi bien la possibilité de suivre une seule conférence. Donc, dans ces cas-là, c'est 15 euros. Vous avez la possibilité de suivre, en fait...
Donc, si je suis une conférence dans l'année, ça me fait 15 plus 18. C'est quand même
c'est
pas très
ça,
cher.
Hein,
c'est
33 euros, voilà. Oui. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, par exemple, suivre une thématique, vous pouvez, dans ces cas-là, admettons que le cycle est ramené à 4 conférences, on ramène le prix de la conférence à 10 euros et donc le montant du cycle est de 40 euros.
Est-ce que les profs sont payés ou est-ce qu'ils font ça de manière bénévole?
Non, les enseignants sont rémunérés.
D'accord, bon, on imagine qu'ils doivent quand même, je ne sais pas quel est le salaire d'un prof d'université, mais en tout cas il doit falloir beaucoup d'étudiants pour arriver à ce qu'ils soient correctement payés tant les inscriptions sont faibles. Donc frais de dossier 18 euros et après la conférence 15 euros. On fait une première pause et on va vous retrouver avec donc cet increvable Moyen-Âge comme illustration d'un des cours, en tout cas un extrait évidemment d'un des cours qu'on peut trouver dans cette université du temps libre de l'université Jean Jaurès. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Université du temps libre, le savoir pour tous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin autour du plateau pour nous en parler. Il y a des dames, rien que des dames, mais tant mieux. Daniel Rochefort, vous êtes responsable de cette université du temps libre au sein de l'université Jean Jaurès. C'est en tout cas cette université qui est mise à l'honneur ce matin, mais ça n'est pas la seule à Toulouse. Entre autres, je pense à l'université Paul Sabatier. Florence Boucher, vous êtes professeure de lettres, vous intervenez au sein de cette même université, vous êtes responsable de coordinatrice de son comité de pilotage pour l'université du temps libre, et Marie-Thérèse Tamagnan et Régine Laplace qui sont toutes les deux auditrices. C'est comme ça qu'on dit donc pour les étudiants qui sont là-bas. Alors on s'est dit donc, comme souvent dans ces émissions, ce qui peut mettre l'eau à la bouche, c'est d'avoir un petit aperçu. On fait la même chose pour les colloques. On avance un petit aperçu de ce qu'on peut entendre et des bonnes raisons qu'on a d'aller à cette université du temps libre. Alors vous avez accepté, Florence Boucher, je vous en remercie, de faire écho à un cours que vous avez donné donc sur le thème Increvable Moyen-Âge. Et si j'ai bien compris, vous me disiez qu'on pouvait partir de l'incendie de Notre-Dame de Paris, parce que dans le cœur des Français, quelque part, ça parlait un peu de cet increvable Moyen-Âge, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai donné ce cycle de conférences. Il y avait trois conférences sous ce titre global en mars 2019. Et l'idée, c'était de montrer la permanence dans notre imaginaire et dans notre conscience du Moyen-Âge à travers les siècles. Donc il y avait une première conférence générale et après une conférence sur le 19e siècle et une autre sur le 20e, 21e. Et il se trouve que à peine avais-je fini ce cycle, il y a eu ce malheureux incendie le 15 avril de Notre-Dame, et ça entrait vraiment en résonance dans la mesure où à cette occasion, on s'est rendu compte à quel point la population française, chrétienne ou pas, tenait à son patrimoine médiéval, à ce fleuron de l'architecture médiévale que représente Notre-Dame de Paris.
Alors justement, il y avait, puisque votre angle, c'est les résurgences littéraires du Moyen-Âge au XIXe siècle, de manière plus précise, à propos de cet increvable Moyen-Âge, il y avait un autre, on va dire, aficionado, si je puis me permettre, du Moyen-Âge, qui en son temps déjà pestait contre la modernité, c'est Victor Hugo, mais fait suivre entre autres des textes sur la destruction donc des monuments de France, on peut citer des passages. Tous les genres de profanation, de dégradation et de ruine menacent le peu qui nous reste de ces admirables monuments du Moyen-Âge où s'est imprimée la vieille gloire nationale auquel s'attache à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple. Victor Hugo qui pestait déjà contre la destruction, je crois, sur l'île de la Cité, du Paris moyenâgeux, quand un certain Viollet-le-Duc voulait faire un peu de ménage, non ?
Alors, pas exactement. Là, il y a un petit anachronisme, donc je vais réexpliquer. Il faut se situer plutôt dans la perspective post-révolutionnaire, d'une part, et dans l'industrialisation et la modernisation urbaine, d'autre part. Donc, Victor Hugo, à la suite d'ailleurs d'autres gloires littéraires, hein, comme Chateaubriand ou Naudier, s'est offusqué, indigné des saccages de monuments, d'une part perpétrés sous la période révolutionnaire, hein, le vandalisme révolutionnaire proprement dit, mais qui s'est trouvé aggravé par les démolitions effectuées au cours du 19e siècle pour libérer des terrains à des fins aussi mercantiles. Hein, pour
oui, pardon, c'est
des...
pas Viollet-le-Duc, je pensais à Haussmann,
oui,
excusez-moi.
Voilà. Bon, mais Haussmann, c'est un peu plus tard aussi.
19e.
Voilà, et récupérer des matériaux de construction. Donc Hugo a écrit des articles véhéments pour dénoncer ces abus et conscientiser la population. Il va écrire des articles, dont un en 1832 intitulé « Guerre aux démolisseurs », qui donne bien le ton. Et les pouvoirs publics, d'ailleurs, vont réagir à la mobilisation de Hugo et de ses confrères écrivains, puisque en 1830 est créé le poste d'inspecteur des monuments historiques, et par exemple un Mérimée occupera avec brio cette fonction. Et puis, en 1837, la commission des monuments historiques, dont fera partie Hugo pendant plusieurs années. Et c'est à la suite de cette mobilisation que le grand chantier de restauration de Notre-Dame, mené par Viollet-le-Duc, va commencer dans les années 1844, pendant 20 ans. Et c'est finalement avec l'incendie de Notre-Dame, on s'émeut de la disparition, notamment de la flèche rajoutée. Hein. Ne l'oublions pas, de la flèche rajoutée par Viollet-le-Duc. Je rappelle au passage aussi que les fameuses chimères qui regardent là, ces monstres perchés sur les
gargouilles.
Oui, les gargouilles, voilà, qui sont sur les sommets, ne sont pas d'origine. Hein. On croit toujours que c'est médiéval. En fait, ça fait partie des éléments rajoutés par Viollet-le-Duc à cette époque.
Donc en tout cas, le Moyen-Âge, on va dire, on lorgnait dessus dès avant notre époque. Alors, dans votre cours, entre autres, vous expliquez que si au XIXe siècle, on avait une certaine fascination pour le Moyen-Âge, et je pense que nombre de nos auditeurs aussi sont intrigués par cette époque qui court donc du 5e au 15e siècle à peu près, donc ça fait quand même presque 1000 ans, surtout quand on est comme nombre d'auditeurs chrétiens, c'est évidemment une période qui nous intéresse. Vous, ce que vous expliquez, c'est qu'à l'époque, si on était fasciné par le Moyen-Âge, c'était aussi une manière de rejeter un peu la modernité. Alors expliquez-nous ça.
Alors rejeter la modernité.
Sortir d'un carcan classique, pardon.
Oui, voilà, c'est
pour les auteurs.
Disons que le début du 19e siècle, hein, qui correspond à la génération romantique, c'est vraiment la période qui va remettre sur le devant de la scène le Moyen-Âge. Après, il faut le dire, un assez long blackout, hein, puisque entre la Renaissance au 16e, l'âge classique au 17e et l'âge des Lumières au 18e, pour différentes raisons esthétiques ou idéologiques, le Moyen-Âge était peu ou prou occulté, hein, et laissé de côté, barbare, ignorant, etc., tout ce que vous voudrez. Et donc, c'est la génération romantique qui va le remettre sur le devant de la scène, et notamment en réaction à la codification esthétique et littéraire menée au cours du XVIIe siècle.
Alors expliquez un petit peu davantage, qu'est-ce que c'est que ce carcan classique, pour ceux qui connaissent moins,
tous ces
auteurs voulaient se libérer.
Oui, le XVIIe siècle, c'est l'âge de constitution des académies, l'Académie française, mais pas que, la codification aussi de la langue à travers les grands dictionnaires de langue française qui voient le jour à ce moment-là. Et puis les règles, par exemple, tous les auditeurs se rappelleront avoir appris la règle des trois unités qui régit le théâtre classique.
Hein. Ah oui, ça rappelle les souvenirs, ça.
Voilà, hein, donc toutes ces conventions-là sont ressenties par la jeune génération romantique comme autant de freins qui brident la création, la créativité littéraire. Et du coup, c'est cette génération qui va vouloir rejeter ces règles. Et comme le Moyen-Âge en littérature, c'est aussi une époque d'avant la règle, et bien du coup le Moyen-Âge est tout à fait bienvenu pour sa liberté, et son originalité oubliée.
Alors vous m'avez donné aussi à citer donc un auteur qui dit la chose suivante: la remise à l'honneur du Moyen-Âge à l'époque romantique s'accompagne d'un faisceau de représentations souvent placées sous le signe de l'excès, de l'extraordinaire, du bizarre. Le grotesque médiéval offre ainsi une multiple possibilité au romantisme qui s'emprête de réhabiliter tout ce qui relève du difforme, du monstrueux, de l'irrégulier. Donc on pense évidemment à Quasimodo, fameux roman de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors vous me dites que c'est pas sans cliché aussi, hein. Est-ce que vous pouvez faire un peu écho des clichés? Il y a des passages savoureux que vous citez de certains auteurs, entre autres de Chateaubriand, qui s'enflammait un peu. On a l'impression que le Moyen-Âge, il rêvait un certain Moyen-Âge.
Oui, Chateaubriand, royaliste, nostalgique, hein, de l'Ancien Régime, et qui a écrit plusieurs textes en rapport avec le Moyen-Âge. Et par exemple, dans le Génie du christianisme, il exalte le souvenir de la chevalerie. Je cite quelques lignes du Génie du christianisme, 1828. Hein. « Le seul mot de chevalerie, le seul nom d'un illustre chevalier est proprement une merveille que les détails les plus intéressants ne peuvent surpasser. » Et après, il va imaginer la vie habituelle du chevalier et ses pétris de clichés. À peine le nouveau chevalier jouissait-il de toutes ses armes qu'il brûlait de se distinguer par quelques faits éclatants. Il allait par monts et par vaux, cherchant périls et aventures. Il traversait d'antiques forêts, de vastes bruyères, de profondes solitudes. Vers le soir, il s'approchait d'un château dont il apercevait les tours solitaires, etc. Donc on voit bien aussi l'écho avec un un certain style médiévalisant, hein, mais qui est largement fantasmé.
Et qui était et donc et qui est aussi une un certain comment dire une certaine idée de la France, et c'est le dernier point sur lequel vous voulez insister. Si on cite toujours Chateaubriand dans Génie du christianisme, dans un autre passage que vous m'avez donné, les entreprises solitaires servaient aux chevaliers comme d'échelons pour arriver au plus haut degré de la gloire, de gloire avertie par la ménestrie des tournois qui se préparaient au gentil pays de France, ils se rendaient aussitôt au rendez-vous des braves. Vous me disiez en préparant l'émission que c'est aussi la nostalgie d'une certaine France. Alors ça, c'est une nostalgie qui continue à courir à l'intérieur de la vie française. Hein. Voilà, cette presque veille d'élection, il y a encore, même parfois dans la vie politique, comme des nostalgies pré-révolutionnaires. Expliquez-nous un petit peu cette dimension politique qu'il y avait aussi chez ces auteurs du 19e siècle et sur le fantasme qu'ils pouvaient avoir, ou en tout cas l'idée qu'ils se faisaient du Moyen-Âge, pardon.
Eh bien, bon, c'est dans, là encore, hein, c'est dans la perspective de avant ou après la Révolution, le retour éventuel à un ancien régime. Les auteurs que nous avons cités ne sont pas spécialement de gauche. Hein, en tout cas, le premier Victor Hugo.
Pas révolutionnaire, en tout cas.
Oui,
pas pro-révolution.
Voilà. Et donc, ils ont une certaine nostalgie de ça. Bon, Chateaubriand aussi, sa famille a fait les frais hein, de la Révolution. Donc il y a un certain penchant pour un retour à une forme de tradition, hein, et éventuellement, voilà. Ça m'entraînerait assez loin, sinon sur le plan idéologique.
Hein. Vous les citiez, Huysmans, au moins pour finir. Oui. Huysmans, et qu'est-ce que vous voulez nous dire à propos de Huysmans, et puis peut-être de son regard sur la modernité, justement.
Oui. Disons que là, Huysmans, bon, c'est un exemple pris plus tard, hein, dans le 19e siècle. Donc nous quittons, bien sûr, la génération romantique que nous évoquions. Huysmans, hein, je rappelle qu'il a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle.
1848-1907.
Hein. Voilà. Et donc, lui, c'est situé dans un autre contexte. Hein. C'est quelqu'un qui était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, mais aussi un érudit qui a publié beaucoup de romans, de nouvelles, d'articles, essais, critiques de l'art. Tendance dissidente du naturalisme, mais qui se sentait mal à l'aise, hein, dans son époque. Et beaucoup de ses œuvres expriment ce malaise. Par exemple, l'œuvre la plus connue, c'est « À rebours ». Hein, et le titre, en fait, évoque bien l'idée d'un retour en arrière, hein,
On peut citer un passage d'ailleurs, ouais, hein, lorsque l'époque où un homme de talent est obligé de vivre est plate et bête, l'artiste est à son insu même hanté par la nostalgie d'un autre siècle qui lui aurait mieux convenu et qui pourrait être le Moyen-Âge.
Oui, voilà, peut-être plutôt le 15e siècle, hein, que Huysmans a mis en avant dans d'autres de ses œuvres, comme Le drageoir aux épices, où il salue d'emblée un maître en François Villon, hein, le poète le plus célèbre du 15e siècle.
Eh ben, merci beaucoup de cette balade donc dans la littérature du 19e siècle, preuve qu'à l'université du temps libre, on peut découvrir bien des perles. Merci de cette balade à grandes enjambées. Pour ceux qui nous quitteraient, un site internet www.univ-tlse2.fr. Mais restez avec nous, on va écouter un peu l'histoire, le témoignage rapide de nos deux étudiantes qui vont nous dire comment elles sont arrivées à cette université et ce qu'elles y trouvent.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Université du temps libre, le savoir pour tous, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Daniel Rochefort, qui est responsable de cette université pour, au sein de l'université Jean Jaurès, Florence Boucher, qui est professeure de lettres et qui l'accompagne, coordinatrice du comité de pilotage de cette même université, et donc Marie-Thérèse Tamagnan et Régine Laplace, toutes deux auditrices. Pourquoi est-ce qu'on ne vous appelle pas étudiante, tout simplement, Marie-Thérèse Tamagnan? C'est quoi? C'est l'usage, c'est ça? Ça vous irait pas mieux, étudiante?
Ah, moi, ça m'est complètement égal. Hein.
Alors, on va dire, allez, étudiante auditrice.
Si vous voulez.
Marie-Thérèse Tamagnan, alors, comme souvent pour ces émissions, on finit par des exemples. C'est dans le fond ce qui met parfois le plus en route les auditeurs. Vous étiez enseignante,
oui.
Donc institutrice, comme on
oui.
dit,
institutrice.
Pendant de nombreuses années. Alors, oui. On imagine qu'une institutrice a déjà le goût d'apprendre et de faire apprendre. Mais vous étiez encore sur votre faim, c'est ça? Si vous m'expliquez, on prépare l'émission, vous auriez aimé avoir plus de temps déjà?
Tout à fait. Pendant ma vie professionnelle, je n'ai pas pu voir et approfondir tout ce que j'aimais, et Dieu sait s'il y en a. Donc, j'aimais beaucoup mon travail et je me suis retrouvée à la retraite sans y avoir pensé. Mais...
Donc c'était en 2004, m'avait dit.
Oui, c'était en 2004. Oui. Et là, je me suis aperçue qu'il me manquait vraiment quelque chose au niveau de la concentration. Et puis, j'ai repensé à tout ce dont j'avais rêvé pendant que je travaillais. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose.
Il y avait des matières comme ça que vous vouliez particulièrement explorer.
Beaucoup, oui.
Et ça vous revient beaucoup. En tête, parmi les cours que vous prépariez pour vos élèves, vous disiez quoi?
Surtout l'histoire, la littérature, l'histoire de l'art.
Alors vous êtes
lancé... Et la botanique, enfin les sciences de la vie. Hein.
Donc vous êtes lancé donc en 2009, ça fait vous entamez donc aujourd'hui votre 11e année.
Oui.
Et alors vous, la particularité, alors déjà comment vous avez entendu parler de l'université du temps libre?
Eh bien, j'étais avec une amie, on a cherché et j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose qui nous présente une grande variété de matières et c'est comme ça que j'ai trouvé le temps libre.
Voilà, ouais. Et alors vous y allez tous les jours, on m'avait dit.
J'habite à Toulouse.
Donc vous êtes étudiante à temps plein, en fait, depuis 11 ans.
Oui, pratiquement, oui.
Donc, c'est-à-dire, vous faites votre pique-nique et puis
ça m'arrive.
Vous mangez sur les...
Oui, ça m'arrive.
Sur les bancs de l'université.
Dans le jardin.
Voilà, en tout cas, vous m'avez dit que Daniel Rochefort, Florence Boucher, c'était des personnes que vous croisiez souvent.
Oui.
Voilà, que vous aviez aussi des amitiés qui s'étaient créées.
Oui.
Alors, si on reste juste qu'est-ce que vous suivez comme cours, par exemple, cette année, Marie-Thérèse Tamagnan? Vous en suivez tellement que vous ne pouvez peut-être pas tous les citer.
Ah non. Mais alors,
parlez-nous de quelques-uns de ces cours.
Je suis inscrite à 38 cycles.
Et 38 cycles juste pour cette année?
Oui.
Ah oui.
Juste, chacun comprend 4 ou 6 séances de conférences de 2 heures,
Vous dévorez.
Je ne m'aperçois pas du temps, je ne sais même plus quel âge j'ai quand je pars. Et quand je m'inscris au mois de juillet, je me dis, paraphrasant Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il faut que j'en sache encore un peu plus.
Alors,
à la rentrée.
Vous ne pouvez pas citer les 38, mais si vous deviez en citer 2-3 qui vous plaisent particulièrement, qu'est-ce que vous citeriez?
Tous me plaisent.
Ah oui, mais il faut faire un choix, voilà. Je vous avais prévenu. Hein, alors, donnez-moi un ou deux cours.
Proust, à la recherche du temps perdu, l'Arménie médiévale, et là, lundi, on a commencé les romantiques, le paysage romantique allemand, par l'intermédiaire de la poésie, la musique et la peinture.
Alors, si vous regardez dans le rétroviseur, depuis que vous vous êtes lancé dans cette aventure en 2009, et qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je ne sais pas, non seulement en termes de savoir, mais peut-être de vie sociale, de vous lancer dans cette université du temps libre comme ça.
Alors, en plus, en plus du savoir, partager, parce que je le partage avec un groupe d'amis ou d'autres personnes avec qui on échange, ce qui est très intéressant. Et après, à force, j'ai constitué plusieurs groupes d'amis. Aussi, l'accueil que j'estime avoir depuis 11 ans à l'intérieur de l'Université du Temps Libre, l'accueil par Dany Rochefort et ses collaboratrices, à tel point qu'avec Dany, nous avons décidé de créer un jardin dans les locaux de l'université, qui était un peu en friche.
Donc vous y avez appris plein de choses, et en plus, vous y êtes fait des amis.
Oui.
Voilà, c'est important de le dire.
Et c'est surtout le partage qui est agréable.
C'est important de le dire, parce que parfois on entend dire que passé un certain âge, c'est difficile de se faire des amis, donc la preuve est faite que ce n'est pas le cas.
La preuve est faite, hein. Alors, et des amis avec qui on partage.
Alors juste, avant qu'on vous donne la parole, Régine Laplace, est-ce à dire que Daniel Rochefort, que Marie-Thérèse Tamagnan va passer 38 examens à la fin de l'année pour valider toutes ces matières?
Non, la particularité de l'Université du Temps Libre, c'est justement que ce n'est pas du tout diplômant. Donc, en fait, c'est juste là, passer du temps, mais du coup, entre amis et à passer de bons moments à se cultiver,
voilà,
à s'enrichir.
Je lève cette ambiguïté parce que ça pourrait inquiéter certains auditeurs. Oui, vous voulez rajouter ?
Je voudrais rajouter que moi, ce qui me convient et vraiment, c'est que à l'intérieur de cette université, avec pratiquement toutes les personnes avec qui je parle, on ne parle pas des problèmes liés à notre âge, de nos petites histoires, mais de ce que nous venons de faire, de ce que nous allons faire, et qui correspond au cours que nous prenons.
Merci de cette précision, c'est vrai que c'est certainement...
Et c'est ça qui me fait beaucoup de bien.
Alors, Régine Laplace, vous aussi, donc, vous êtes auditrice ou étudiante auditrice. Racontez-nous un peu, si on doit partir pareil de l'avant. Vous y êtes pris longtemps à l'avance, vous avez anticipé votre retraite pour le coup.
Tout à fait. J'ai commencé à réfléchir à peu près 5 ans avant mon départ en retraite. Ah, mais que vais-je faire de tout ce temps libre ? Donc, j'avais bien imaginé, puisque je suis une randonneuse, donc j'avais bien imaginé continuer la randonnée si je le pouvais. Et puis, je me suis dit, j'avais beaucoup d'intérêt pour beaucoup de sujets, mais que je n'avais pas pu donc découvrir du fait d'une profession très prenante. Et je me suis dit, ça va être le moment.
Alors dites-nous en deux mots, donc vous étiez habituée à reprendre des études, vous n'êtes pas obligée de nous raconter toute votre vie professionnelle, mais vous avez fini en étant formatrice.
Oui.
Donc reprendre des études, c'était déjà quelque chose que vous saviez faire, c'est ça ? Vous disiez que vous aviez réétudié au long de votre vie professionnelle.
Oui, tout au long de la vie professionnelle, mais c'était de la formation professionnelle qui concernait directement le métier. Donc je n'avais pas, au niveau de la culture générale, je n'avais pas pu aborder certains sujets que là... justement, quand j'ai découvert le site internet de l'Université du Temps Libre, où j'ai vu la richesse de propositions, je me suis dit, ça y est, youpi, j'ai trouvé.
Alors, même question, vous, qu'est-ce que vous suivez comme cours, par exemple, si vous deviez nous donner des exemples et puis des choses qui vous ont parlé dans ces cours, qui vous ont frappé ?
Alors, je suis particulièrement intéressée par l'histoire. Donc, par exemple, je viens de terminer un cours qui parlait de Sapiens, hein, l'homme sage, Sapiens. Et puis, je suis particulièrement intéressée par l'histoire des contes de Toulouse, animée par Laurent Massé, qui est professeur à l'unité Jean Jaurès, à l'université Jean Jaurès, et donc qui nous explique... Donc, toute la période des contes de Toulouse, avec tout ce qui a pu
se passer. Raymond 4, Raymond 5, c'est ça ?
Tous les Raymonds. Tous les Raymonds.
Pour finir, quand vous regardez, c'est pareil, vous, donc vous êtes lancé en 2008, si j'ai bien compris, hein, c'est ça ?
Oui, c'est voilà. Ça.
Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté de rencontrer cette université du temps libre et puis d'avoir choisi de faire autre chose que de regarder votre smartphone, pour reprendre mon introduction ?
Je peux me permettre de vous dire que je ne regarde pas mon smartphone.
Ah, bah voilà, très bien. Décidément, vous êtes un élève modèle. Alors, pour finir, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Eh bien, ça m'a apporté une richesse. D'abord, une découverte de choses que j'ignorais. Et puis, j'ai pu rencontrer, comme dit Marie-Thérèse, qui est devenue une amie. Donc, j'ai pu rencontrer des tas de personnes avec lesquelles, effectivement, nous prolongeons les cours par des discussions. Et éventuellement, nous nous rendons en librairie pour regarder les ouvrages qui nous sont conseillés par nos enseignants.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette université du temps libre, de nous donner un aperçu. Pour rappel, pour finir, pour donner quelques informations pratiques, donc un site internet univ-tlse2, pour Toulouse en abréviation, univ-tlse2.fr. Après, il faut aller sur formation, insertion, université du temps libre. Un numéro de téléphone, 05 61 50 24 02, 05 61 50 24 02. Je précise aussi que l'université Paul Sabatier, qui est pour les sciences, a lancé l'université du temps libre. Et puis, si vous ne pouvez pas vous rendre à Toulouse, eh bien vous allez dans la grosse ville la plus proche et vous vous renseignez, car peut-être existe-t-il aussi d'autres réalités, comme les associations, vous l'avez dit au début de l'émission, Daniel Rochefort, association du troisième âge, université du troisième âge, qui sont d'autres formes d'université. Vous vouliez un dernier mot, Régine Laplace, lequel ?
Oui, je voulais préciser, monsieur Laurent Massé, nous précise que l'erreur qui est commise par beaucoup de personnes concernant la croix,
qui n'est pas
la croix occitane, mais la croix des comtes de Toulouse.
Très bien. Eh bien, à découvrir à l'Université du Temps Libre. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.